Bonjour à toutes et à tous. Bonne année. Soyez les bienvenus pour ce premier culte de 2024. Que vous soyez habitués ou que ce soit une première fois, physiquement ou à distance, sentez-vous accueillis parmi nous. Pour démarrer ce culte, j'aimerais vous parler de confiance. Pour ma part, quand tout va bien, c'est assez facile pour moi de me dire que j'ai confiance en Dieu. Mais quand les épreuves me tombent dessus, tout de suite, c'est plus compliqué. Dans ma vie, j'ai expérimenté des épreuves pour lesquelles j'ai prié et Dieu m'a répondu. Parfois, il a répondu comme je m'y attendais, d'autres fois, de manière plus surprenante. Et pour certaines prières, j'attends encore, avec espoir, mais j'attends encore. Il m'est donc arrivé de perdre espoir et de laisser Dieu de côté, en pensant orgueilleusement que je pouvais y arriver par moi-même. Entre 2016 et 2018, ma femme et moi avons traversé une série d'épreuves très dures pour nous. Le point culminant, je suis sous l'eau, au travail, depuis un an et demi, avec une équipe sous ma responsabilité, et ma femme est contrainte de se reconvertir après 6 ans d'études et d'abandonner son métier de rêve. À ce moment, rien ne va plus. Je crie à Dieu, pourquoi ? Comment je vais faire ? Je suis surchargé au travail et j'ai un chef qui ne vit que pour sa carrière. Je ne peux pas démissionner, j'ai besoin de faire vivre ma famille et ma femme a besoin de moi pour la soutenir dans ses épreuves. Seigneur, je ne peux pas être un bon mari et tenir ce rythme au travail. J'ai besoin d'être dans la présence de ma femme, j'ai besoin d'être auprès d'elle. Aide-moi. De retour au travail, comme chaque semaine, je vois mon chef pour notre point hebdomadaire. Exceptionnellement, nous sommes dans le patio de l'entreprise. Alors c'est très joli, c'était une entreprise qui bossait dans les plantes vertes, donc c'était très sympa. Il faisait beau en plus. Et là, sans conviction, un petit peu bégayant, je lui dis « Ma femme traverse des moments difficiles et je ne peux plus tenir le rôle que tu m'as confié. J'aimerais revenir à un poste qui me permette de rééquilibrer ma vie pro et perso. » Sa réponse a été immédiate. Le carriériste qui travaillait même le week-end me répond « D'accord, on va travailler à te remplacer au plus vite et tu prendras un poste adapté à la situation. » Waouh, ok. Un mois après, il était viré. Une bonne douche froide. Adieu les belles promesses. J'en parle tout de même au directeur général de l'entreprise qui prenait l'intérim. Et il me renouvelle la promesse de mon ancien chef en me proposant même de lever le pied. Deuxième waouh. Finalement, une nouvelle chef finit par être recrutée et je lui parle de ma situation. Et elle renouvelle la promesse faite initialement. Elle vient d'arriver, elle est encore en période d'essai, elle n'a aucun intérêt à changer un responsable d'une équipe qui roule. Mais elle poste quand même une annonce et on verra bien ce qui se passera. Quelques mois après, un candidat disponible sous quelques semaines est recruté, ce qui est assez rare quand on est une entreprise qui est à Archamps et à quelques centaines de mètres de la frontière suisse. Troisième waouh. Quelques temps après, parce qu'on ne s'en rend pas compte immédiatement, j'ai pu me rendre compte que je venais d'expérimenter la puissance de notre Dieu. En 8 mois et 3 chefs plus tard, Dieu m'a libéré de mon poste et mon couple a tenu bon. L'épreuve qui vous atteint n'a pas dépassé la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il donne le moyen d'en sortir et la force de la supporter. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Je l'ai expérimenté. Est-ce que c'était ma dernière épreuve ? À 24 ans à l'époque, certainement pas. On peut même dire aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Mais je suis en paix. J'ai confiance. Dieu est fidèle et son plan pour nous est parfait. J'attends encore des réponses à mes prières et des explications à des épreuves douloureuses. En aurais-je une pour chacune de mes épreuves ? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que Dieu est à mes côtés. Il est là, il suffit de le laisser entrer dans nos vies, c'est complètement gratuit. Tout a déjà été payé par Jésus-Christ. Je vous propose de louer l'Éternel, je loue ton nom éternel.
Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je nous souhaite une bonne année 2024. Que nous soyons comblés par les bénédictions de celui qui nous aime par-dessus tout, malgré nos imperfections, ou plutôt avec nos fragilités et notre humanité, telle qu'il nous a créés. Nous voulons l'adorer pour qui il est, le louer pour ce qu'il a fait pour nous, cette grâce qu'il nous offre, cette paix qu'il nous donne dans les moments difficiles. Soyons heureux, comme dit David dans le psaume 1, nous trouvons notre plaisir dans la lecture de la parole de l'Éternel et nous la méditons jour et nuit. Nous sommes comme un arbre planté au bord de l'eau. Nous donnons du fruit en saison et notre feuillage jamais ne flétrit. Et tout nous réussit. Amen. Nous continuons ce moment de louange par trois chants. Je loue ton nom éternel, ébloui, et je chanterai gloire. Seigneur, nous voulons être éblouis par ta présence. Nous voulons être là, à tes pieds, pour t'adorer. Et nous savons que tu seras toujours là.
Je désire. Tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi.
Oui, Seigneur, nous voulons habiter près de toi et nous voulons chanter ta gloire.
Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que si c'est difficile,
je chanterai gloire.
Allez. je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé. Je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en
de laisser partir les enfants avec leur moniteur. Je ne sais pas si c'est possible pour les ados, s'il y a quelqu'un qui est dispo pour les ados ce matin. Il me semble que oui. Bon, dans ce cas, je vais remettre tous nos enfants et nos ados à notre Seigneur pour qu'ils aient un temps de qualité. Seigneur, je te remercie pour tous ces enfants qu'on a dans notre assemblée, qui soient régulièrement là ou de passage. C'est un plaisir de pouvoir les voir parmi nous. Je te remets aussi les moniteurs qui vont les accompagner ce matin. Je te prie pour qu'ils aient un temps de qualité ensemble en ta présence. Amen. Donc les enfants, vous pouvez vous diriger vers vos moniteurs.
Bonjour à chacun et à chacune. Heureux de vous retrouver ce matin. J'espère que ce temps de vacances, relatives en tout cas, vous a été bienfaisant. Je réserve mes vœux un peu mieux définis pour la fin de ce temps de prédication-réflexion. Il m'a semblé qu'en ce premier culte de l'année 2024, il était légitime de parler encore, nous l'avons fait autour de Noël, mais de parler encore d'espérance, d'espérance. Et c'est sans doute d'autant plus vrai dans le contexte géopolitique, mais peut-être aussi plus personnel que nous pouvons connaître. Et je vous propose de le faire ce matin à partir du texte de l'Ancien Testament, d'Ésaïe 60, un texte qui est proposé dans la plupart des lectionnaires liturgiques pour le temps de l'Épiphanie. C'est aujourd'hui, ce week-end, l'Épiphanie. Mais d'abord, avant de lire le texte biblique du jour, quelques éléments de contexte. Nous sommes dans les derniers chapitres du livre du prophète Ésaïe. Ces derniers chapitres du livre du prophète Ésaïe s'adressent au peuple de Juda. Le peuple de Juda se trouve en exil à Babylone. Nous sommes au VIe siècle avant la naissance de Jésus-Christ. Ces hommes, ces femmes, ces enfants sont abattus, découragés, loin de chez eux, déracinés. Leur avenir est bouché, sans espoir. Ils sont, dirions-nous aujourd'hui, dans le dur, au pied du mur. Le prophète Ésaïe leur adresse alors de vibrants appels pour un retour à Dieu. Parce que quand on est dans le dur, souvent le salut repose dans le retour à Dieu. Il les appelle à revenir à Dieu, à s'adresser à Dieu, à crier à Dieu. Mais pas seulement. Au-delà de ce vibrant appel à revenir à Dieu, le message d'Ésaïe contient aussi de magnifiques promesses de restauration. Peut-être, Alex, on peut envoyer le premier slide et je devrais pouvoir faire la suite. Le message d'Ésaïe à ce peuple déraciné, à ces hommes et ces femmes abattus, inquiets, c'est qu'une espérance forte est toujours possible, même dans les temps les plus troublés que l'on puisse imaginer. Une espérance forte est toujours possible. Et le début du chapitre 60 est probablement une des expressions les plus fortes de cette espérance-là. Je vous invite à le lire, c'est écrit petit. Peut-être vous arrivez à suivre, sinon n'hésitez pas à sortir vos smartphones, vos bibles. Je lis moi dans la Bible en nouveau français courant. Ésaïe 60, 1 à 6. Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi. La gloire du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Mais toi, le Seigneur, t'éclaire comme le soleil qui se lève. Au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. Alors, des peuples marcheront vers la lumière dont tu rayonnes. Des rois seront attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Regarde bien autour de toi et vois tous tes enfants. Ils viennent et se rassemblent auprès de toi. Tes fils arrivent de loin. On ramène tes filles en les portant dans les bras. En les apercevant, tu rayonnes de bonheur. Tu en es tout ému. Ton cœur éclate de joie. Car les richesses de la mer arrivent chez toi. Les trésors du monde affluent jusqu'à toi. Ton pays se couvre d'une foule de chameaux. Ce sont les caravanes de Madian et d'Epha arrivant toutes de Saba. Elles apportent de l'or et de l'encens en chantant les exploits du Seigneur. Ça, c'est bien un texte pour l'épiphanie que nous fêtons aujourd'hui. L'épiphanie, par définition, l'arrivée, le voyage des mages jusqu'à l'enfant Jésus, le mot épiphanie, il a une signification plus vaste, plus large. Il signifie apparition ou manifestation. Et si souvent nous l'entendons au sens de la visite des mages à Jésus, Marie et Joseph, il n'est pas limité ce mot à cet épisode de la visite des mages pour voir la manifestation de Dieu dans l'enfant Jésus. Ce texte-là, on peut, il me semble, on doit le recevoir pour toute manifestation particulière, toute révélation de la gloire de Dieu. Parce que toute démarche de foi, n'importe quelle démarche de foi, prend naissance dans une épiphanie, une révélation de Dieu, une expérience de sa présence, une prise de conscience de son existence, de la possibilité même que Dieu existe. Cette démarche de foi, elle peut être radicale, elle peut être spectaculaire, comme Paul, sur le chemin de Damas, inévitable, radical, spectaculaire. Mais cette démarche de foi, elle peut être aussi plus secrète, plus intime, plus balbutiante au fond de notre cœur. Parfois, dans une démarche de foi, on peut mettre des dates, on peut mettre des mots. Parfois, c'est plus flou, mais tout aussi certain et décisif. Alors, dans le contexte de l'exil du peuple de Juda, le texte que nous avons lu et que nous allons méditer courtement, il évoque un retour à Jérusalem, un retour aux sources. C'est un mouvement inverse de celui de l'exil. Non seulement les enfants de Juda reviennent à Jérusalem, mais encore les peuples et leurs rois se rendent aussi à Jérusalem. Et ils s'y rendent attirés par la lumière de la gloire du Seigneur. La gloire de Dieu comme un aimant. Est-ce qu'aujourd'hui encore, la gloire de Dieu nous aimante? Est-ce qu'un grand Dieu, saint, puissant, transcendant, est-ce que c'est quelque chose qui nous aimante? Le retour de Juda à Jérusalem, il a bien eu lieu quelques années plus tard. Mais ça ne s'est pas encore fait avec l'éclat et la gloire décrites dans ces versets. L'accomplissement de la promesse, il était encore à venir. Et l'accomplissement de la promesse que nous avons lue a alimenté l'espérance messianique des croyants juifs. Et aujourd'hui, elle alimente encore l'espérance chrétienne. D'une certaine manière, on a un écho de ce texte dans le récit de la visite des mages dans l'évangile de Matthieu. Eux viennent avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais la lumière que les sages d'Orient sont venus contempler, guidés par une étoile, rayonnait sur le visage d'un petit enfant. Et dans ce petit enfant, Jésus, tout n'était encore alors que promesse. Et pourtant, c'est la lumière de la gloire de Dieu qui resplendissait, encore discrète. Comme mentionné dans le prologue de Jean, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Une gloire discrète. Cette lumière, elle se fera plus éclatante lorsque cet enfant devenu adulte ressuscitera après sa mort au matin de Pâques. Et la lumière, elle brillera de tout son éclat le jour où, selon ses promesses, le Seigneur reviendra pour rétablir le royaume de Dieu. Apocalypse 21, versets 22 à 26. Donc, la portée de ce texte d'Ésaïe que nous avons lu s'enrichit de la venue du Fils de Dieu sur terre. Il s'enrichit, ce texte, de Jésus-Christ, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son retour prochain. Le plein accomplissement de la promesse d'Ésaïe est encore à venir, au jour plein de la révélation de la gloire de Dieu. Et pourtant, je crois qu'il y a des choses fortes à recevoir de ce texte magnifique. Trois effets que je vous propose sur l'espérance du croyant, de la croyante de 2024. D'abord, l'espérance, ça nous remet debout, ça nous met debout. Début de ce texte, debout, Jérusalem. C'est par cet appel que commence notre texte. L'espérance même nous met ou nous remet debout. Debout, ne restez pas abattus, épuisés, découragés. Notre espérance nous met debout, ou elle nous remet debout, quelles que soient les circonstances de notre vie, quel que soit le contexte dans lequel nous vivons, l'espérance nous tient debout et nous permet d'avancer. Bien sûr qu'il y a de multiples raisons d'être fatigué, d'être découragé, d'être abattu, d'être inquiet aujourd'hui. Je n'ai même pas besoin de vous faire un dessin. Et si notre espoir n'est que dans ce monde et ses réalisations, je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait quelque raison que ce soit de se mettre debout. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Il s'est relevé de la mort. Et par là, il a acquis notre salut plein et entier. Avec lui, nous pouvons nous tenir debout. La puissance de sa résurrection est à l'œuvre en nous aujourd'hui. Elle nous restaure, elle nous purifie, elle nous pardonne, elle nous communique la vie, elle nous donne la victoire. Il ne s'agit pas d'être bêtement triomphaliste et de nier les combats que nous devons continuer à mener en tant que croyants, en tant que croyantes. Mais il s'agit bien de saisir les promesses de Dieu, de laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre de restauration en nous et d'expérimenter la puissance de la grâce de Dieu. Et même si nous sommes accablés par l'épreuve, et je sais que parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui le sont accablés par l'épreuve, même si nous sommes a priori incapables de la surmonter, cette épreuve, nous savons qu'un jour, nous nous relèverons aussi de la mort. Nous nous tiendrons debout en présence du Christ ressuscité pour l'éternité. Au dernier jour encore, l'espérance nous mettra debout pour toujours. Je retiens de ce texte la première chose suivante. C'est que l'espérance, par définition, nous met ou nous remet debout. Et puis l'espérance, elle nous donne un horizon. Au cœur de notre texte, il y a la lumière. Une lumière qui est comme celle du soleil qui se lève. Toujours au verset 1, « La gloire du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. » Que regarde-t-on quand on contemple le spectacle d'un lever de soleil ? Eh bien, on regarde loin, on regarde à l'horizon, on regarde à la journée qui vient, à ce qui se lève, à ses promesses. L'espérance, par définition, est quelque chose qui vient nous donner un horizon, un avenir qui ne s'arrête pas. L'espérance, elle nous permet de voir au-delà des épreuves, au-delà des difficultés du moment, aussi intenses soient ces épreuves. Elle nous garantira, l'espérance, que notre histoire ne se terminera pas dans ce monde, mais qu'elle se prolongera pour l'éternité dans un monde nouveau. L'horizon est dégagé depuis que le Christ est ressuscité. Vous et moi, on ne sait pas de quoi sera faite cette année 2024 qui vient de s'ouvrir devant nous. Et puis on a appris ces dernières années à être prudent avec ce qui vient, à utiliser un peu plus le conditionnel. Mais ce qui est certain, c'est que notre espérance n'est pas dans la politique. Elle n'est pas dans je ne sais quelle élite. Ça ne veut pas dire que nous devions nous désintéresser de la politique. Mais nous devons garder toujours nos yeux fixés sur l'horizon de notre espérance, qui est garantie par le Christ ressuscité. C'est ce qui nous permettra de relativiser les espoirs et les désespoirs de ce monde et voir peut-être un peu plus loin avec les yeux de la foi. Quand l'avenir semble bouché, quand ton avenir semble bouché, l'espérance voit au-delà. Elle voit vers l'horizon du royaume de Dieu. les valeurs qu'il véhicule, ici et maintenant, déjà. Et puis, l'espérance vient éclairer nos ténèbres. Verset 2, l'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples, mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève. Remarquez la forme verbale au présent. Ce n'est pas un jour le Seigneur t'éclairera, un jour tout ira bien. Ce n'est pas ça. Mais c'est bien le Seigneur t'éclaire. Il t'éclaire maintenant, dès aujourd'hui. Et je trouve que c'est ça aussi l'espérance. Non pas seulement un espoir pour demain, mais une espérance dès maintenant. C'est d'ailleurs la promesse de Jésus à ses disciples qu'il fait juste avant de les quitter. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais tous les jours, pas juste à la fin du monde, maintenant, avec toi. Quand le soleil se lève à l'horizon, très vite la lumière nous atteint. Elle commence même à paraître avant que le soleil ne se lève. Nous attendons encore, bien sûr, le plein accomplissement de notre espérance. Mais sa lumière nous atteint dès aujourd'hui, elle éclaire nos ténèbres, elle chasse la nuit qui nous entoure. Notre vie aujourd'hui peut être illuminée par notre espérance, parce que l'espérance vient éclairer nos vies. D'ailleurs, dans notre texte, Jérusalem est appelée à briller de mille feux. On aimerait tant que ce soit comme ça aujourd'hui, dans la Jérusalem terrestre, une Jérusalem qui brille de mille feux. Je ne sais pas si notre espérance à nous nous fait briller de mille feux, mais au moins, elle est appelée à transparaître dans nos vies, l'espérance. Il y a une question pertinente à se poser en tant que croyant, que croyante aujourd'hui, particulièrement dans ce contexte si âpre que nous connaissons. Comment pouvons-nous être porteurs, porteuses d'espérance dans ce monde-ci? Quelle espérance incarnons-nous, nous les croyants et les croyantes? Quelle espérance incarnons-nous? Que votre lumière brille aux yeux de tous, disait Jésus. Comment être porteur d'espérance dans un monde où règne l'incertitude, la peur, la méfiance, la défiance, le soupçon? Comment pouvons-nous être porteurs d'espérance? Plutôt que de suivre comme des moutons et que de relayer soit des discours anxiogènes, soit des discours complotistes, les chrétiens et les chrétiennes d'aujourd'hui ne devraient-ils pas avoir une voix discordante exprimant la confiance en Dieu, la paix, l'espérance? Il faut conclure. J'apprends à me connaître. Je trouve les temps que nous vivons tellement âpres. Honnêtement, ce n'est pas toujours facile à l'intérieur. Je ne sais pas vous dans quel état psychologique, physique, vous vous trouvez au début de cette nouvelle année. Peut-être que vous êtes fermement debout, prêt, déterminé. Peut-être que vous êtes chancelant, mal assuré, fatigué, inquiet. Et peut-être que vous êtes même à terre, découragé, fond du trou. Dans tous les cas, je vous invite à lever les yeux et regarder vers l'horizon. Pas juste l'ici et le maintenant, mais l'horizon du royaume de Dieu qui vient. Je vous invite à laisser sa lumière vous rejoindre, à la laisser vous guider. Je vous encourage, mes amis, à puiser dans votre espérance la force de vous relever ou de rester debout. Car une espérance solide est possible grâce à Jésus-Christ. mort et ressuscité, qui a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et pour la faire courte, tout le reste, n'est que garniture. Le cœur du cœur, l'essentiel est là. Une espérance solide est possible grâce à Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, que vous veniez de traverser la plus belle année de votre vie, ou que vous soyez incroyablement soulagé de voir celle-ci enfin terminée, une vérité claire reste au milieu de tout ça. Vous n'êtes pas seul. Jamais. Si vous saviez comme Dieu vous aime, vous en pleureriez de joie. Il trouve les perdus, il guérit les brisés, il répare les dégâts, il rassemble les siens, il ramène à Dieu, il sauve, il accompagne, il bénit. Commencez 2024 avec lui. Quelle que soit la volonté du Seigneur pour chacun, chacune d'entre nous en 2024, nous qui aimons Jésus et qui le suivons, je sais que cette volonté, elle dépassera nos forces naturelles, nos compétences, nos talents, nos niveaux d'expérience, nos domaines d'expertise, notre acuité intellectuelle et notre sagesse consolidée. La belle façon dont Jésus a mis en place cette foi, c'est que nous ne pouvons pas aimer et servir Jésus sans Jésus. Et c'est mon seul vœu pour vous tous et toutes. C'est mon vœu pour moi. C'est ce que je prie pour nous en 2024. Plus de Jésus. Bonne année. Amen.
Merci Philippe. Merci pour le message que Dieu t'a confié pour nous ce matin. Je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de prendre un temps de prière, que ce soit pour vous-même ou à haute voix. Et je conclurai ce temps par une prière.
Il était méprisé et abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux qui, devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont de nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, eh bien ce sont de nos maladies qu'il s'est chargé et de nos souffrances qu'il a prises sur lui. Cette parole d'Ésaïe 600 ans avant les fêtes me trouble et me démontre encore une fois combien, Seigneur, ta parole est vraie, ta parole, on peut s'y appuyer. Merci pour Jésus, merci Jésus d'être venu nous rencontrer au plus profond de nos... notre obscurité. Amen.
Amen. Amen.
Jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à la fin du monde. Nous avons, et c'est cela que nous ressentons aussi. Ainsi parce que tu nous envoies pas simplement comme ça, dans l'espérance de quelque chose, mais tu nous donnes un but, une fin. Nous savons que nous irons un jour, nous te verrons face à face. Ton nom sera écrit sur notre front. Nous te louons pour cette espérance. Amen.
Amen.
Amen. Père Céleste, accorde-nous un cœur pur et un esprit bien disposé. Dans cette année 2024, nous allons accueillir et vivre, Seigneur, cette espérance que tu nous accordes en Jésus.
Amen.
Amen. Amen.
Seigneur, merci. Merci parce que même quand nous sommes dans les ténèbres au plus profond de nos épreuves, il y a un horizon. Il y a un horizon à travers Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, un cadeau incroyable et pourtant qui est à la portée de tout à chacun. Tu nous remets debout, tu nous tiens quand nos jambes ne nous portent plus. Tu prends nos fardeaux et c'est ça qui permet d'être en confiance. On sait que c'est réel, tu es là, tu nous tiens. Et merci pour ça, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen.
Avant la scène, nous voulons chanter « Rédempteur du monde ».
Sous son regard, sauver.
Nous allons maintenant entrer dans le temps de la scène. La scène, c'est la reproduction du dernier repas pris par Jésus avec ses disciples avant sa crucifixion. Et c'est en même temps un moment de communion pour tous les chrétiens avec Dieu. Et c'est également une promesse. Une promesse qu'il reviendra et que si nous le choisissons comme sauveur personnel, tous nos péchés sont pardonnés par sa mort à la croix il y a maintenant plus de 2000 ans. Un tout petit peu moins en réalité. Tout a été payé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La vie éternelle, aux côtés de notre Dieu, elle nous est offerte. C'est la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. N'attendons pas pour en profiter. Aujourd'hui, nous allons lire l'institution de la scène dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, des versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez-en, ceci est mon corps. » Il prit ensuite la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Nous prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour Jésus, ton Fils, notre Sauveur, notre espérance. Permets que ce repas que nous nous remémorons ce matin vienne nous encourager, nous vivifier, nous pousser de l'avant par la présence active de Jésus dans nos vies. Nous l'aimons, nous l'adorons et nous nous attendons à lui. Amen.
Si les personnes que j'ai contactées en début de culte peuvent s'approcher pour distribuer la scène, il y aura donc trois personnes qui vont passer dans les rangs. Le vin, les gobelets transparents autour sont remplis de vin réellement. Les gobelets violets sont remplis de jus de raisin. Et puis pour ceux qui le souhaitent, Philippe passera avec la coupe dans les rangs. N'hésitez pas à lever la main.
On va maintenant prendre un tout petit temps pour les annonces. Je voulais vous rappeler que l'Église possède un service d'objets trouvés et qu'actuellement sont dans le foyer un certain nombre d'objets, notamment un sac de sport noir avec un pull à l'intérieur. Il y a également un autre sac avec des livres qui sont du côté de la penderie sur roulette dans le foyer, juste à gauche. Et au-delà de ça, il y a au fond, à droite, gauche, quand vous êtes de dos, un bac sur le côté dans lequel il y a tous les objets trouvés qui sont là pendant une durée relativement déterminée. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. J'aimerais aussi appeler Sylvain, Lionel et puis Cyril. Parce que je crois que Lionel, tu as un projet qui se concrétise et on aimerait bien prier pour toi.
Bonjour. Moi, je vais vous dire au revoir pour quelques mois. Je pars en Angleterre pour aller faire du bénévolat dans un centre de conférences et de prières chrétiens. Ça s'appelle Ashburnham et c'est au sud-est. C'est pas du tout à vous préparer. J'ai eu la confirmation que j'avais le visa jeudi passé et je pars mardi matin. Voilà, donc c'est tout soudain. Et moi, je crois vraiment que c'est Dieu qui m'appelle là-bas. Je sais pas encore pourquoi. Mais avec beaucoup de prières et puis beaucoup d'envois de postulations un peu partout, c'est la seule voie qui s'est ouverte, en fait, c'est la seule porte qui s'est ouverte. Et j'ai plusieurs raisons de croire que c'est Dieu qui m'appelle. Donc voilà, c'est vraiment un moment spécial. Et puis je suis heureux qu'on prie pour moi, je ne savais pas. Merci. Du coup, voilà, comme ça, vous en savez un peu plus. Et puis j'imagine que je donnerai des nouvelles de manière un petit peu fréquente ces prochains mois, quoi. Voilà.
Fais comme tu veux.
À qui je donne le micro ? Merci.
On est content en groupe mission d'avoir un nouveau missionnaire temporaire. À prier pour toi. Oui, Seigneur, prends un temps ce matin pour te remettre Lionel avec la mission que tu lui confies, là où il va être pour les prochains mois. Nous avons chanté ce matin, tu es. Tu seras toujours là, et c'est une parole que je te souhaite de garder dans ton cœur, Lionel, et que Seigneur, il sera toujours à tes côtés. Tu vas expérimenter certainement l'humilité dans un milieu où tu ne connaîtras pas grand monde, mais lui te connaît, lui sait pourquoi tu es là-bas, et je suis convaincu qu'il te mettra de belles personnes. Sois ouvert à ces expériences, Seigneur, à ce qu'il veut te dire pendant ces moments, et reviens-nous enrichi de sa présence dans ta vie pendant ces mois particuliers. Amen.
Oui, Seigneur, accompagne Lionel dans ce temps qui va être une découverte d'un nouvel environnement, d'une nouvelle culture, découverte qui peut être aussi bien enrichissante que déstabilisante. Permets-lui, de travers ses expériences, de trouver sa voie. Merci pour ce désir de servir qu'il a en toi. Permets-lui de trouver la manière dont il peut mettre en pratique les dons que tu lui as donnés, et que tu répondes aussi à ses désirs, ses besoins personnels d'un jeune de son âge, et d'avancer dans la vie avec ta présence. Amen. Amen.
On te souhaite tout de bon, Lionel. Prends soin de toi, puis ouais, n'hésite pas à me donner des nouvelles régulièrement, irrégulièrement, comme tu sens. Merci beaucoup. Et bon courage. J'aimerais que nous prenions un temps aussi dans la continuité de ça, pour ceux qui souhaiteront, après la bénédiction, ceux qui ont envie, qui ont peut-être des sujets de prière, qui souhaitent partager. N'hésitez pas à aller après la bénédiction. De ce côté-là de la scène, il y aura des gens qui seront à disposition. Oui.
J'ai deux annonces encore. Si c'est possible.
Évidemment.
Je crois. La possibilité. Voilà, j'aimerais rappeler aussi, dans ce même sujet que pour Lionel,
que par cette semaine, je ne sais pas si elle est là en fait, Maïka. Maïka Negrini, donc, qui part au Népal pour un servir de... Pour un, Maïka, pardon. Maïka Negrini, qui part donc au Népal cette semaine qui vient, et pour un service de quelques mois là-bas. Et c'est même si elle n'est pas là, on a eu un moment pour elle le 12 novembre, lors du culte mission, mais on voulait simplement rappeler cela, la rappeler à votre souvenir, à vos prières, parce que quand on est loin, comme ça, bien, on a besoin du soutien de ceux qui nous envoient. Voilà. Ah, c'est la première. La deuxième, vous vous rappelez peut-être de Julien de Poitiers qui est venu accompagner notre ami Negrini. Il m'a écrit l'autre jour et il disait de bien saluer l'église de Mérin. Il garde un bon souvenir de son passage parmi nous. Puis la troisième chose, on a fait avec le groupe mission, on a proposé cette cagnotte pour la voiture pour le Brésil, pour Joshua Porter. Josh. Et on a eu le plaisir de lui remettre une certaine somme, on va dire le chiffre, c'est 2000 francs, de votre part, pour l'aider à l'achat de cette voiture qui lui facilitera ses déplacements dans son exercice missionnaire et professionnel là-bas, au Brésil. Alors encore un grand merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette cagnotte. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire et je remercie Dieu pour toutes choses.
Merci Paul Robert. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent qu'on prie pour eux, n'hésitez pas tout à l'heure. Non, je te disais juste merci. C'est tout, merci. Merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas, juste là, il y aura des personnes pour prier avec vous. Et puis ben, pour tous les autres, juste après la bénédiction, il y a le café que Francine et Jonas sont ravis de vous servir et de vous offrir juste à ma gauche. Je vous propose de vous lever pour la bénédiction. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous accompagne dans votre semaine. Bon dimanche à tous.